Studio Tamani, voici les informations en français.
Il est 18h dans ce studio, même heure à Logosambaga dans la région des Kayes. Mesdames et messieurs, bonsoir. À l'occasion de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur, célébrée le 23 avril, nous mettons en lumière des jeunes passionnés par la production des livres malgré certaines difficultés. Désormais, les acteurs de l'artisanat et de la culture bénéficient d'une protection sociale grâce à une convention signée hier entre le ministère de la Culture et celui de la Santé et du Développement social. Des discussions ont eu lieu ce jeudi matin autour des conclusions des Assises nationales de la refondation de l'État. Les participants se sont penchés sur les nouveaux outils pour la mise en œuvre des recommandations issues des travaux. Dramane Meiga pour vous présenter ce journal, la mise en œuvre est assurée par Seydou Daou. Encore une fois, bonsoir. Le Monde a célébré hier, mercredi 23 avril, la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Instituée par l'UNESCO en 1995, cette journée vise à promouvoir le plaisir de lire, à valoriser les auteurs et à défendre les droits d'auteur à travers le monde. Au Mali, des jeunes s'intéressent de plus en plus à la production des livres. Toutefois, il est difficile de dire comment est gérée la question du droit d'auteur. À la faveur de cette journée donc, notre reporter Mamadou Samasekou a rencontré des acteurs, suivant son reportage.
L'association des jeunes écrivains du Mali regroupe des jeunes auteurs. Malik Mbaye, leur président, explique la façon dont les productions sont protégées et les écrivains perçoivent leurs droits au Mali.
Après publication, l'œuvre est protégée par le Bureau malien des droits d'auteur. L'éditeur ou bien l'auteur amène un exemplaire de son livre, on l'enregistre. En cas de contentieux autour de l'œuvre, le Bureau malien des droits d'auteur qui règle cela. Beaucoup de personnes penchent plus vers le contrat à compte d'auteur parce que c'est là que tu reçois beaucoup, parce que tu investis pour produire ton livre. À la fin, tu as tes exemplaires, tu vends et tu perçois tes droits à chaque vente.
Le Bureau malien du droit d'auteur, BMDA, a pour rôle de protéger les œuvres littéraires et artistiques. Aussi, il s'occupe de la gestion des œuvres des créateurs afin de leur permettre de profiter de l'exploitation des dites œuvres. Madame Diallo Aïdakone, directrice générale de cet établissement.
En s'affiliant au Bureau malien du droit d'auteur, les auteurs renoncent à la gestion individuelle et ils confient la gestion de leurs droits à l'organisme de gestion collective. Donc il appartient à nous, Bureau des droits d'auteur, de veiller à l'exploitation de ces œuvres et d'aller vers ces gens assujettis au paiement de la redevance de droits d'auteur pour qu'il y ait une rémunération.
Le BMDA appelle tous ceux qui exploitent les œuvres littéraires et artistiques de se munir d'abord d'une autorisation au risque de tomber sous le coup de la piraterie. Un acte puni par la loi régissant la propriété littéraire et artistique en République du Mali.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte X. Nous l'avons annoncé, les acteurs de l'artisanat et la culture bénéficient désormais d'une protection sociale. Il s'agit de l'assurance volontaire pour la culture, AVOC. La signature de la convention a été actée hier mercredi entre le ministère en charge de la culture et celui de la santé et du développement social. L'initiative vise à améliorer la prise en charge de l'ensemble des personnes évoluant dans le domaine des arts et de la culture. Notre reporter Cheikh Amadou Diarra était sur place.
L'offre aux travailleurs, salariés comme non salariés ainsi qu'à leur famille l'accès aux soins de santé et une protection contre la perte de revenus ou l'augmentation des charges de la famille.
Ces propos sont du colonel Assaba Diallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. Les acteurs de la culture et de l'artisanat en plus de l'AMO vont bénéficier aussi de l'accès aux allocations familiales. Mamoud Dafé, ministre de la culture, de l'artisanat, de l'industrie hôtelière et du tourisme, se réjouit de cette nouvelle mesure.
Ça va être l'année de la solidarité, ça va être l'année de la protection des artistes et des artistes, de l'année de l'acteur du tourisme. Et c'est ce qui a commencé, c'est pour soutenir les talents, pour revitaliser les territoires.
De son côté, le président de la Chambre des métiers, Mamadou Menkoro Traoré, représentant les bénéficiaires, a évoqué la nécessité de la prise en charge médicale des artisans.
C'est sur les réseaux que l'on voit des appels au secours à des acteurs et artisans culturels en détresse. Pourtant, ils font leur carrière à servir leur secteur. On remarque qu'au moment de la retraite aussi, leur protection sociale n'est pas garantie. J'ai été témoin de certaines scènes. Je remercie les deux ministres pour leur engagement.
Il faut noter qu'un chèque de 30 millions a été mis à profit pour enrôler les bénéficiaires. L'enrôlement de deux acteurs culturels a été l'un des temps forts de cette cérémonie.
La cinquième session du comité de pilotage du cadre stratégique de la refondation de l'État s'est tenue ce jeudi à Bamako. La réunion visait à assurer le suivi et l'évaluation du cadre stratégique de la refondation de l'État. Au cours de cette session, les participants ont formulé des recommandations pertinentes visant à orienter les futures actions de gestion élargie. Maître Amadou Tchéoulé Diarra, coordinateur général du comité, est au micro de Hawa Berthe.
C'est de nouveaux outils que le CNCR effectivement a travaillé pour mettre en conformité avec les recommandations des assises nationales de la refondation. Ces nouveaux outils, avant d'entrer en discussion avec les responsables des politiques gouvernementales, nous avons le devoir effectivement d'en discuter avec les secrétaires généraux, les points focaux et les directeurs des CPS. La journée d'aujourd'hui vise effectivement à avoir un point de vue sur les nouveaux outils que le comité indépendant a confectionnés, leur présentés avant effectivement d'entrer en vérification des recommandations qui ont été mises en œuvre par le gouvernement.
18h passées de 6 minutes à Ségou. La remise des prix du concours de meilleure transparence dans les communes du cercle de Ségou ont eu lieu hier 23 avril 2025 à Ségou. Les trois communes gagnantes sont Markala, classée première avec un montant de 7 millions de francs CFA, suivi de celle de Dioro avec 5 millions de francs CFA et la commune de Kalaké avec 3 millions de francs CFA. Le concours est initié par le programme de gouvernance locale Rédévable. Son objectif, selon les responsables, est de reconnaître les performances des communes récipiendaires, d'encourager aussi les autres communes à poursuivre les bonnes pratiques de transparence et la gouvernance locale. Ce concours a regroupé 43 communes de la région. Il a été financé par le Royaume des Pays-Bas.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, en partenariat avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali Urtel, financé par l'Union européenne, les gouvernements du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni et par la coopération espagnole.
Cap sur Kuchala, où les conflits fonciers agricoles ont nuit au tissu social. Pour remédier à la situation, des commissions foncières COFO ont été créées dans les communes et villages de la région. Leur rôle est de prévenir et résoudre à l'amiable ces différends entre les parties. Cependant, ces commissions peinent à satisfaire ces besoins. De plus, les acteurs légaux ont du mal à interpréter les textes en la matière. Grâce aux efforts de l'État et certaines ONG, les COFO de Kuchala progressent. Les autorités estiment que 50% des procès-verbaux de conciliation établis par ces commissions ont été homologués par la justice. Notre correspondant et reporter dans la capitale de l'Or Blanc, David Koulibaly, nous donne plus d'explications dans ces.
Les gouvernements maliens et ses partenaires, les ONG MerciCorps et AMED, ont mis en place un programme appelé Justice et Stabilité au Sahel JAS pour prévenir et gérer les conflits fonciers agricoles. Idrissa Fané, représentant de MerciCorps, nous parle de ce programme.
JAS s'articule autour de trois axes prioritaires. Le renforcement des capacités de gestion des conflits et de collaboration entre les communautés et les institutions. L'amélioration de la résilience face aux chocs climatiques pour réduire les conflits liés aux ressources. La production de données probantes pour un plaidoyer efficace et une meilleure coordination entre les parties prenantes.
Les commissions foncières COFO ont eu des difficultés au début à mettre en œuvre les activités du programme JAS, bien que la situation s'améliore. Sidi Bekay Koulibaly, chef de quartier et membre de la COFO de la commune urbaine de Kuchala, en témoigne.
Au début, il a été difficile de recenser les litiges fonciers auprès des chefs de village et des autorités locales pour les tribunaux. Après un atelier de formation auquel les procureurs et les présidents du tribunal ont participé, la compréhension de COFO s'est approfondie.
Les fonciers agricoles sont très sensibles car il est essentiel à la vie. C'est aussi un élément d'identité. Selon Omar Alassane Kouyaté, procureur de la République près le tribunal de grande instance de Kuchala.
Je pense que s'il y a un contentieux qui fait couler beaucoup d'encre, c'est bien celui-là, celui qui a trait au foncier et de surcroît le foncier agricole. Certes, il y a beaucoup de textes en la matière qui existent, mais il se trouve que l'interprétation déjà de ces textes par les différents acteurs légaux pose beaucoup de difficultés et la gestion du foncier de façon globale s'en ressent.
C'est donc dire que la justice et la stabilité prônées par les acteurs sont en marche, comme le montrent les propos de Seydou Sogoba, maire de la commune rurale de Ntosoni, dans la région de Kouchala.
C'est en 2023 qu'on en a.
En 2023, notre COFO local a réussi à régler un conflit foncier. Les acteurs se sont réunis et ont rédigé un procès verbal. Le document a été envoyé successivement à la mairie et ensuite au tribunal. La justice, à son tour, a homologué le document et cela a permis aujourd'hui de promouvoir la quiétude et l'entente entre deux familles qui étaient en conflit.
Les tensions liées au conflit foncier menacent la cohésion sociale et le développement durable selon les autorités régionales. Cependant, la collaboration avec les ONG MerciCorps et AMED pour la gestion de ces conflits agricoles commence à porter ses fruits. De Kouchala, David Koulibaly pour Studio Tamani.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À présent, nous recevons Sekou Gadigo pour l'introduction du Grand Dialogue. Sekou, quel est le thème du débat de tout à l'heure ?
Comment améliorer l'accès et la qualité des services publics locaux de santé? C'est le thème du Grand Dialogue d'aujourd'hui. Nos invités sont Djakalia Dambélé, chercheur du groupe Observation des dynamiques sociales, spatiales et expertise endogène Odyssée, Sekou Touré, président de la Fédération locale des associations de santé communautaire de Mopti, et Brahima Bengali, deuxième adjoint au maire de Kaboïla dans le cercle de Sikasso.
Bon débat, merci. D'ici là, vous pouvez nous faire parvenir vos plaintes, avis, commentaires ou recommandations en nous appelant au 76 98 56 56 à Studio Tamani. Nous attachons une grande importance à vos messages et nous nous engageons à les traiter avec diligence. L'abus sexuel envers les enfants demeure un sujet évité dans notre société. Pourtant, il est malheureusement courant, comme en témoignent les récentes agressions ciblant cette couche. Rien qu'en mai 2024, à Sikasso, 9 petites filles ont été victimes de viols. Mais ce fléau ne touche pas seulement les filles. Les garçons sont aussi concernés. Les parents et les enfants gardent trop souvent le silence face à ce drame. Pourquoi ? Dans ce numéro de Tous les enfants du Mali, nous voulons mettre en lumière cette réalité ignorée. C'est une réalisation de Mariam Koulibaly.
Djenaba, c'est un nom d'emprunt pour protéger l'identité de cette femme, une victime d'abus sexuels durant son enfance. Des traumatismes qui la hantent encore aujourd'hui, 20 ans après les faits. Elle se souvient de cette cousine plus âgée qui abusait d'elle pendant ses bains.
Aujourd'hui, étant maman, je suis devenue super protectrice avec mes enfants. Elle touchait mes parties intimes et me disait de laver aussi ses parties intimes. Elle ne me plaisait pas, mais elle était beaucoup plus âgée que moi et je me disais que personne aussi n'allait me croire.
Des Djenaba, il y en a beaucoup dans nos maisons et souvent le danger ne vient pas de l'extérieur. Mais, comme le souligne Douma Dramé Diallo, fondatrice de l'organisation Impact Santé, les parents doivent être préparés à détecter ou à gérer ces situations.
Ne serait-ce qu'en lavant ton enfant à partir de 3 ans, lui expliquer sous la douche, ah bah tiens, voilà, là c'est ton intimité, c'est tes parties intimes, tu les nettoies tout seul. Personne ne doit y toucher. Donc l'enfant tout de suite va comprendre que quand on rentre dans la chambre de nos enfants, taper à la porte avant d'entrer aux directeurs et directrices d'établissements scolaires, de mettre en place des ateliers de sensibilisation.
Pour Mohamed Touré, psychologue, les séquelles de ces abus peuvent être profondes. Si la victime ne reçoit pas un suivi psychologique adéquat, elle risque de développer des comportements néfastes, se replier sur elle-même, voire devenir réfractaire à toute forme d'intimité.
Il y a là l'état de choc et puis la peur. Il devient très nerveux, anxieux et il se pose la question, est-ce qu'il faut en parler aux parents, est-ce qu'il faut pas en parler. Tout le problème même par rapport à cette situation, c'est le regard de la société et ça peut les amener complètement au retrait. Les parents doivent accompagner les enfants. Il faut un suivi médical, puis un soutien psychologique, il faut un soutien juridique.
La honte empêche beaucoup de victimes de se défendre. Les parents conscients de cette réalité tentent de protéger leurs enfants, comme en témoignent ceux de Ségou, Bamako ou Toumignan.
J'ai dit à mes enfants de rentrer directement après les cours et de ne pas s'amuser avec les garçons. Je communique beaucoup avec elles. Je contrôle leur va-et-vient. Je suis très sélective quant au choix de leurs amis.
Que font les écoles pour prévenir les abus? Ousmane Jean-Baptiste Djassana est directeur d'école à Tominia. Selon lui, en plus des cours dispensés sur la santé sexuelle, certains jeux sont interdits pour éviter tout risque d'abus.
À travers nos leçons, les élèves se méfient et les anciens aussi suivent. Il y a la séparation des latrines. Il y a le gouvernement des enfants fonctionnels aussi, veille beaucoup sur le comportement des élèves à l'école. Un garçon peut poursuivre une fille, aller la taper sur ses fesses et peut toucher à ses seins. On ne veut pas ce genre de jeu chez nous à l'école.
La loi malienne condamne fermement toute forme de violence sexuelle, qu'il s'agisse de viol, d'inceste, d'harcèlement ou d'attouchement. Les agresseurs encourent des peines sévères, précise Dr Khadija Toubouaré, enseignante-chercheure à l'Université Kourou-Kamfouga de Bamako.
En se référant au code pénal, les articles 512, alinéa 12, 13, 14, la sanction varie de 150 millions d'amende à 10 ans d'exclusion pour pédophilie, pour abus sexuels, ainsi de suite.
Mais malgré des lois et des mécanismes de soutien en place, les agresseurs face à des victimes silencieuses échappent souvent à la justice. La question reste alors, comment faire pour que la peur change de camp et que les bourreaux ne s'en sortent plus impunis?